Vous écoutez KTO Radio, il est 6h.
Chers amis, le 2 février, vous le savez, c'est la fête de la Chandeleur. Alors, la Chandeleur, c'est d'abord une antique fête païenne qui célébrait la sortie de l'hiver et le retour de l'abondance agricole, d'où les crêpes d'ailleurs qui sont un signe d'abondance. Du moins, c'était comme ça dans l'ancien temps. Et il est quelque part un peu curieux, voire criant, de se dire que c'est au moment où on va célébrer un peu l'abondance, que nos agriculteurs, tant en France qu'en Belgique, crient famine et bloquent nos routes en disant « ça ne va plus du tout, on n'arrive pas à survivre ». La fête de la Chandeleur est devenue la fête chrétienne de la présentation du Christ au Temple, et saint Jean-Paul II a souhaité que cette fête soit particulièrement consacrée à justement la vie consacrée, les moines, les moniales, les religieux, les religieuses, qui quelque part se présentent avec toute leur vie dans le temple intérieur. Et là aussi, il est intéressant de se dire que la vie monastique, durant en tout cas les 13 premiers siècles de l'histoire de l'Église, a été vraiment pionnière dans l'histoire de l'agriculture, selon le principe de la règle de saint Benoît, « ora et labora », prix et travail, les moines ont déblayé des friches entières, ont asséché des marais, ont permis que des régions entières soient vouées à l'agriculture et nourrissent le bon peuple. En Grande-Bretagne, jusqu'au XVIe siècle, les cisterciens, qui étaient vraiment les maîtres de l'agriculture, ils géraient à peu près un tiers des terres du Royaume-Uni. C'est vous dire le succès que cela avait. Alors, en mettant tout cela ensemble, la détresse de nos agriculteurs et en même temps la vie consacrée, je me dis que quelque part il y a quelque chose de divisé, de schizophrène dans notre société. Nous souhaitons tous payer le moins possible et certains n'ont pas les moyens. Et en même temps, on veut des produits de qualité. Ça, il y a quelque chose qui cloche, qui ne va pas ensemble. De même, on peut se dire, les agriculteurs souhaitent une agriculture durable, mais le Green Deal, les règles d'agriculture verte de l'Europe les dérangent parce qu'elles les trouvent étouffantes. Notre société doit retrouver une unité et il s'agit vraiment que l'agriculture, qui est la base d'une société qui nous nourrit, retrouve petit à petit cette unité entre la nature et le besoin de nourrir les hommes et la capacité évidemment économique d'acheter leurs produits. En cela, peut-être que la vie consacrée peut nous aider. La vie consacrée nous recentre dans la spiritualité et c'est peut-être vers un surcroît de spiritualité qu'il faut se tourner pour avoir pour demain une agriculture qui soit durable. Et pour tout le monde, bonne journée.
Je reconnais
Cathéo Radio.
À la une cette semaine. Catherine Lalanne, rédactrice en chef Le Pèlerin.
Qui n'a pas entendu autour de lui un jeune adulte repousser le moment de devenir parent dans un contexte si peu accueillant ? Mettre au monde un enfant, aujourd'hui en France, n'est plus une évidence. Alors que les chiffres de l'INSEE font état d'une baisse historique du nombre de naissances, Le Pèlerin a mené l'enquête. Les difficultés à se loger, à trouver un mode de garde, le travail des femmes, la tentation de l'hédonisme participent au décrochage actuel, mais n'expliquent pas tout. Les craintes écologiques, politiques, économiques des trentenaires sont de vrais freins à leur désir de fonder une famille. Le pari de la vie est plus difficile à faire quand l'horizon s'assombrit. Cet horizon bouché, nos agriculteurs en colère le dénoncent jusqu'aux portes de Paris. Soumis à une pression administrative injustifiée, à un carcan de normes trop strictes qui les fragilisent, ils réclament une existence digne et s'alarment de la relève de leurs exploitations dans de telles conditions. Pour aller de l'avant, il faut y croire. Partout dans nos colonnes cette semaine, c'est de confiance dont il est question. En soi, en l'autre, en demain. Renouer un pacte entre les paysans et le politique, l'administration et les citoyens, les jeunes et l'avenir, c'est de reconnaissance, de soutien et d'espérance dont nous avons tous besoin pour tracer notre chemin.
Martin Ferron, rédacteur en chef de La Vie.
Bonjour. Dans le numéro de La Vie cette semaine, nous revenons évidemment sur l'actualité avec le mouvement des agriculteurs qui s'est déployé dans notre pays. Nous avons cherché à comprendre et à expliquer les racines de cette colère qui motive ces hommes et ces femmes confrontés à des problèmes financiers, réglementaires et environnementaux, parfois dramatiques. Leur témoignage est à retrouver dans nos pages. Dans notre dossier, nous revenons sur la polémique déclenchée par les propos de la nouvelle ministre de l'Éducation, Amélie Oudéa-Castéra, qui a réveillé, bien malgré elle, les spectres d'une nouvelle guerre scolaire entre le public et le privé. Accusé de tous les maux, l'enseignement privé, catholique en particulier, est-il vraiment un instrument au service des élites, favorisant la ségrégation sociale et les inégalités ? Quelle réalité recouvre ces établissements ? Une enquête très complète qui rétablit quelques vérités pour mieux comprendre le rôle essentiel de ces écoles qui veulent être considérées comme les autres, tout en affirmant leur caractère propre. Public-privé, les nouveaux fronts de la guerre scolaire, c'est en couverture de La Vie cette semaine.
Antoine-Marie Isoard, directeur de la rédaction de Famille Chrétienne.
La consommation d'alcool représente en France un enjeu de santé publique majeur. Famille Chrétienne se demande cette semaine comment aider ceux qui trinquent. Face au fléau de l'alcoolisme, souvent tabou en famille, en société, des mouvements accueillent ceux qui y sont confrontés, comme les pèlerins de l'eau vive qui réunit des personnes dépendantes de l'alcool et leurs proches. Et puis, ancien alcoolique, Julien raconte comment il s'en est sorti avec le soutien de sa famille et une cure au village Saint-Joseph. C'est là qu'il a trouvé un sens à sa vie et rencontré Dieu et renoncé à la bouteille. À l'approche de la Saint-Valentin, attendrissant portrait dans nos pages d'Albert et Simone, les amoureux de Solème. Mariés depuis 75 ans, ils continuent de goûter un bonheur tranquille dans la Sarthe. Et puis, comment comprendre la révolution woke ? Trois jeunes essayistes s'emploient à percer les secrets de cette nouvelle inquisition qui pénètre peu à peu les milieux culturels. Et puis un universitaire nous éclaire, quant à lui, sur les moyens de résister au wokisme.
Véronique Jacquier, rédactrice en chef de France Catholique.
Bonjour, il y a urgence à redécouvrir le sacrement de l'Eucharistie. C'est ce que vous propose France Catholique cette semaine. Pourquoi le fait qu'il s'agisse d'un sacrifice met-il mal à l'aise nos contemporains ? Eh bien, le père Joël Guibert, auteur d'un ouvrage qui vient de paraître sur le sujet, juge extrêmement grave de réduire l'Eucharistie à un moment convivial, à un repas partagé. C'est l'actualisation du sacrifice du Christ sur le Golgotha rendu présent à nos yeux. Alors, en plus de ce grand entretien avec le père Guibert qui est très enrichissant parce qu'il explore toutes les facettes de la célébration liturgique, France Catholique vous propose également la réflexion du philosophe Frédéric Guillot, comment échapper au bruit du monde, comment échapper au vacarme pour retrouver l'intimité de notre âme. Et puis France Catholique, c'est aussi un coup de projecteur sur la vie de Saint Bernard de Clairvaux, le grand Saint Bernard, à l'occasion des 850 ans de sa canonisation. C'est aussi un autre coup de projecteur sur le legs des auteurs latins et grecs dans la civilisation chrétienne. Et puis, comme chaque semaine, le tour de France des sanctuaires Mario, halte à Paris, à Notre-Dame des Victoires, une église érigée par le roi Louis XIII en souvenir des victoires remportées. France Catholique sur abonnement et sur france-catholique.fr.
Bonsoir à tous. Comment arrêter la spirale de violence au Nigeria? La question peut se poser. Plusieurs attaques depuis Noël dans l'État du Plateau, dans le centre du pays, ont fait des centaines de morts, majoritairement chrétiens. Selon l'ONG Portes Ouvertes, le Nigeria est aujourd'hui le pays qui a le plus de chrétiens tués ou kidnappés. Mais ces violences ne touchent pas que les chrétiens et ont plusieurs visages, celui de Boko Haram et de l'État islamique, mais aussi celui de conflits entre éleveurs, peuls, musulmans et agriculteurs, souvent chrétiens, ou encore du banditisme. Comment l'Église soutient la population éprouvée au service de la paix? On va en parler dans un instant avec notre invité, le père John Suakor, qui est nigérian. Mais pour commencer, quelques repères. Situé en Afrique de l'Ouest, dans le golfe de Guinée, le Nigeria est frontalier avec le Bénin, le Cameroun et le Tchad. Sa capitale est Abuja. Pays le plus peuplé du continent africain, il compte environ 219 millions d'habitants. Sur le plan religieux, on estime qu'il y a 45% de musulmans, 45% de chrétiens et 10% d'autres religions. Le nord du pays, c'est-à-dire au-dessus d'Abuja, est essentiellement musulman, tandis que le sud est à majorité chrétienne. Tout de suite, je retrouve notre invité. Père John Suakor, merci beaucoup de nous rejoindre le temps de cette émission. Alors, quelques mots pour vous présenter. Vous êtes originaire de l'État de Benue, qui se situe au centre du Nigeria. Vous avez été ordonné en 2006 pour la SMA, la Société des Missions Africaines. Vous avez notamment été chargé de l'animation missionnaire pour les SMA dans tout le nord du Nigeria et vicaire en paroisse. Depuis 2014, vous êtes missionnaire en France. Après le diocèse de Nantes, vous voici dans la région de Montpellier, où vous êtes curé de la paroisse Pic-Saint-Loup, Haute-Garrigue. Merci de nous avoir rejoints. On va vouloir comprendre un petit peu avec vous ce qui se vit au Nigeria. C'est un pays qu'on suit ici sur KTO depuis longtemps. Il y a eu cette flambée de violence à Noël, ces attaques dont on a entendu parler assez largement dans les médias, ces violences qui ont frappé l'État du Plateau dans le centre du pays du 23 au 26 décembre. Près de 200 personnes, la plupart chrétiennes, ont été tuées par des terroristes dans 26 villages. Des milliers de personnes ont fui pour trouver refuge, notamment dans des églises. Alors que s'est-il passé et quelle est la situation humanitaire des déplacés ? On écoute l'analyse du père Andrew Dewan, qui est directeur des communications du diocèse de Pangshin, où ont eu lieu la plupart des attaques.
Ce à quoi nous avons affaire va bien au-delà d'un simple conflit entre agriculteurs tel qu'on le connaissait auparavant. Il revêt une dimension terroriste assumée, car les chrétiens et leurs lieux de culte, leurs propriétés, sont spécifiquement visés et détruits. À l'heure où je vous parle, nous sommes toujours confrontés à un grand nombre de déplacés internes, des survivants du conflit et des personnes qui ont fui leur village par crainte d'autres attaques. Et leurs craintes sont légitimes, car plusieurs attaques ont été perpétrées depuis celle de la veille de Noël, qui ont, elles, été médiatisées dans le monde entier. En ce moment, dans le gouvernement local de Bokos, l'épicentre de l'attaque de Noël, nous avons environ 18 000 déplacés internes au sein de 13 bâtiments différents pour la grande majorité des églises qui accueillent les déplacés et survivants. Les églises se voient attribuer la responsabilité de nourrir et d'approvisionner ces déplacés. Les chrétiens sont de plus en plus frustrés. Nous en sommes donc arrivés à un point où nous, chefs religieux, sommes incapables de les empêcher de vouloir se défendre. Nous avons toujours prôné la paix, mais dans combien de temps l'atteindrons-nous si l'État ne prend pas les mesures nécessaires pour protéger les citoyens ?
Voilà, je précise, Père, depuis ces jours-ci, hein, d'autres attaques ont eu lieu les 23 et 24 janvier. Au moins 55 personnes ont été tuées et des écoles, des lieux de culte et des maisons incendiées dans la région de Mangou. Père, on a le sentiment que finalement, voilà, il y a des attaques qui reviennent, qui se succèdent. Il y a eu ce drame autour de Noël. Pourquoi le Nigeria en est là aujourd'hui, Père ?
Bon, c'était arrivé la veille de Noël, mais c'est pas la première fois. Mmh. Parce que si on remonte sur l'historique de ces attaques, on peut dire que dans les années 80-84, il y a eu un mouvement islamique qui était arrivé dans l'état du Kaduna pour convertir par force tout le monde. Et c'était aussi des violences très sanglantes. Et puis, dans la région des Jos, effectivement, en 2001, il y a eu des crises de violence et on comptait plus de 7000 personnes tuées. Et au Nigeria, depuis 1999, il y a eu un gouverneur d'un État, l'État de Zamfara, qui avait déclaré son État comme l'État des charia. La loi charia qui
la
doit régner sur
doit s'appliquer.
La constitution. Voilà. Et au moins 10 États du nord du Nigeria avaient pris la suite de l'État de Zamfara pour instituer la loi islamique dans leurs États au-delà de la constitution.
Alors il y a la question effectivement de la charia, de l'islamisme qui est là. Hein. Il y a des groupes djihadistes qui opèrent au Nigeria, mais c'est une violence qui est multiforme, hein, puisque on entend parler de conflits aussi, des conflits séculaires entre les éleveurs de l'ethnie. Et souvent musulmans avec les agriculteurs chrétiens dans le sud. Il y a le banditisme, on entend parler de kidnapping. Finalement, elle est multiforme, cette violence.
Oui, quand on parle de ces violences, c'est-à-dire qu'on utilise d'autres moyens pour masquer l'enjeu.
C'est quoi l'enjeu, justement ?
Soit de la religion, soit des conflits éleveurs-agriculteurs, juste pour masquer l'enjeu. L'enjeu, c'est de prendre la terre des autochtones.
Donc c'est ça, finalement, le cas le plus courant, c'est des histoires de conflits sur des terres.
Sur les terres, sur les terres. Parce que nous sommes dans une zone, une région très riche en sous-sol. Des ressources minérales.
Quel type de ressources, oui.
Voilà. Et dans la région de Jos, effectivement, où il y a eu cette violence. Depuis 1904, qu'il y a eu des mines d'étain qu'on avait laissées à cause des découvertes de pétrole au sud du Nigeria. Aujourd'hui, comme le monde parle encore des pierres précieuses, on revient à miner là où on avait laissé. Donc il y a du thym, de l'or et d'autres pierres précieuses qu'on trouve dans cette région en grande quantité. Donc le programme, c'est de chasser les gens de leurs terres pour avoir des mines illégales. Et je donne un bon exemple. Dans l'état de Zamfara, qui est au nord-ouest du Nigeria, l'ancien gouverneur avait dit qu'il allait vendre de l'or à l'état nigérian. Et ça n'a pas eu lieu parce que ceux du sud disaient que si vous vendez de l'or, qui est la richesse du pays, nous on va vendre aussi du pétrole à l'état. Donc l'état doit acheter ses ressources. C'était ça. Donc la région du centre, c'est une région très riche en sous-sol. Donc le prétexte, c'est soit conduit à une violence agriculteur-éleveur ou se cacher derrière la religion pour chasser les gens de leur terre. C'est ça.
Alors, est-ce que les chrétiens ont peur? Est-ce qu'ils vivent dans ce climat de peur?
C'est-à-dire que c'est une tension en continu. Personne ne sait ce qui peut arriver le lendemain. On dort avec un œil fermé. Parce qu'il faut se lever très tôt pour fuir quand il y a des attaques dans la nuit. Parce que la sécurité n'est pas assurée par l'État. Effectivement.
Oui, cette peur, elle ne touche pas que les chrétiens, puisque, on le disait, hein, ces violences, elles touchent aussi les musulmans, les adeptes de religions traditionnelles. Il n'y a pas que les chrétiens qui sont touchés au Nigeria, il faut le préciser. Père, dites-moi, si on en revient aux chrétiens, quel est le quotidien des chrétiens dans le pays et peut-être dans la région où vous connaissez?
Voilà. Les chrétiens, souvent, sont les gens qui conduisent à la paix. Comme le père vient de dire, malgré tout, on cherche la paix. On prêche la paix, on cherche à vivre en paix avec le voisin, soit musulman, soit de la religion traditionnelle. Parce que c'est ce que nous interpelle notre foi. Vivre dans l'harmonie et la paix. Sachant que ce qui vient pour mettre les gens mal à l'aise vient de loin, ce n'est pas les gens qui sont les habitants réels des villages. Il y a des bonnes cohabitations entre tout le monde.
Entre les différentes religions.
Oui, ça ne pose pas de problème. Parce que dans une famille, on peut trouver toujours des gens de différentes religions. Et dans nos villages au nord du Nigeria, par exemple, il y a les chrétiens qui sont dans une partie du village, les musulmans dans l'autre partie, il y a des mosquées, il y a des églises. Et les gens se respectent, les fêtes sont fêtées ensemble. Voilà.
Donc la cohabitation quotidienne, finalement, elle fonctionne plutôt bien.
Oui, oui.
Et la situation des chrétiens, entre le nord et le sud, c'est différent. Alors le sud est majoritairement chrétien.
Oui, le nord avait connu l'islam bien avant la colonisation, à cause du commerce entre les Arabes et les nordistes. La foi chrétienne est arrivée par la côte. Donc, depuis longtemps, il y a eu beaucoup de chrétiens dans le sud, parce que le sud est majoritairement chrétien. Et ce n'est pas les mêmes effets. Voilà. Ceux du nord, on trouve beaucoup de musulmans dans les familles où il peut y avoir des chrétiens. Mais dans le sud, c'est carrément les chrétiens. Si on trouve des musulmans, peut-être c'est des nordistes qui sont partis travailler ou s'installer dans le sud du pays.
Alors, père, dans ces violences, il y a des prêtres aussi qui sont visés, il y a des enlèvements fréquents, on s'en fait l'écho, nous, ici, sur notre antenne, il y a parfois des assassinats de prêtres, et malgré tout, les vocations restent nombreuses. On a envie de se demander, finalement, mais voilà, pourquoi des jeunes aspirent à devenir prêtres au Nigeria, aujourd'hui?
D'abord, bon, par la foi, les jeunes voient leur appel baptismal aller en mission. En mission envers leurs frères. Et comme il y a beaucoup de chrétiens, surtout au sud, il y a beaucoup de vocations, parce que les gens disent que, voilà, si je suis même martyr, que je sois le martyr aimé par Jésus. Donc je vais être là pour ma communauté de foi. Voilà. Donc ça conduit beaucoup de jeunes à se donner encore dans les séminaires.
Voilà. Vous en êtes un exemple, Père, justement.
Oui, mais aussi j'étais chargé de vocation, donc je voyais beaucoup de jeunes qui toquaient à nos portes pour pouvoir aussi donner leur vie en témoignage de ce qu'ils croient.
Et justement, comment les former, les accompagner dans ce contexte particulier du Nigeria pour correspondre aux besoins de la mission?
Voilà, quand un jeune arrive, d'abord, on lui fait passer par un psychologue. C'est pas parce qu'il est malade, non, mais pour lui aider dans sa situation de vie. Si un jeune arrive, par exemple, de cette région, qui a des violences en continu, on sait qu'il peut être traumatisé. Donc, il faut passer par un psychologue pour voir son état de santé avant qu'il de continuer sa formation. Et pendant la formation, on a aussi à faire des matières interreligieuses. On apprend aussi de vivre ensemble avec des personnes d'autres religions. Il y a des cours d'anthropologie pour aider les jeunes aussi à se situer là où il est. Voilà, donc pour le former, c'est ça qu'on fait.
Et comment les violences, elles ont impacté la mission de l'Église? Alors, je parlais d'enlèvement, parfois d'assassinat, enfin de violences extrêmes, mais est-ce que ça impacte le quotidien du fonctionnement de l'Église?
Il y a des endroits où les églises n'existent plus. Des villages où il y avait une bonne communauté vivante qui n'existe plus. Mais ça renforce toujours la foi de ces personnes, soit déplacées de leur village, soit d'autres qui les accueillent en solidarité pour continuer à vivre leur foi. Donc, il y a une grande solidarité qui est sur place entre les chrétiens qui reçoivent et les personnes qui sont là pour être aidées. Les gens qui donnent leur vivre, qui partagent leurs habits, l'essentiel de la vie, pour les personnes qui fuient cette violence.
Alors, on a parlé de ce constat de violence, et on le comprend, les chrétiens, mais plus généralement la population du Nigeria souffre. Mais on va aussi parler d'espérance avec vous, Père, et d'initiatives pour la paix. L'Église et les associations travaillent sur le terrain auprès des populations pour favoriser le vivre ensemble. Félix Dimka, humanitaire et chef de projet à la Commission Justice et Paix du diocèse de Pangshin, dans l'État du Plateau, nous explique la démarche.
One of the major...
L'un des principaux moteurs de ce violent conflit dans l'État du Plateau est l'aspect religieux qui a toujours été un problème majeur pour nous, plus particulièrement entre les chrétiens et les musulmans. Mais au fil des ans, nous avons fait de notre mieux en tant qu'organisation en menant des activités interconfessionnelles en faveur de la paix dans les communautés. Partout où des violences de ce type font rage, nous nous rendons dans les communautés après le retour à la normale et l'une des principales activités interconfessionnelles que nous menons est le projet Alternative à la violence. Cela consiste à nous rendre dans les communautés touchées. Nous animons ensuite un atelier durant lequel les gens se réunissent. On s'assoit, on discute et on instaure un dialogue avec eux sur la nécessité d'une coexistence pacifique. Dans la plupart des endroits où nous nous sommes rendus, nous avons mis en place un cadre qui leur permet de continuer à travailler et à sensibiliser sur la nécessité de prendre soin les uns des autres et de vivre en paix et en harmonie tous ensemble.
Voilà, Père, il y en a beaucoup des initiatives comme ça, de rassembler les communautés. Comment concrètement favoriser la paix? Qu'est-ce que vous avez, vous, expérimenté, Père?
Voilà, moi, quand j'ai travaillé dans l'État de Kaduna, un jour, il y avait des soucis dans un village. Et puis, nous avons eu un gardien de nuit qui était attaqué en représailles, parce que les gens devaient se défendre. Donc, lui, il était musulman. Il y avait un jeune du village qui était venu nous dire, « Père, j'ai vu que le gardien est attaqué. Il y a du sang. Les gens l'ont eu dans la nuit. Est-ce que vous ne pouvez pas faire quelque chose ?» Donc, on était allé le chercher pour le cacher chez nous, pour le soigner, faire venir les infirmières pour le traiter. Et quand il était bien, il était avec les séminaristes qui commencent les formations. Quand il était bien, on l'avait pris pour la mener dans sa famille qui n'était pas dans ce village. Mmh. Ça, c'est de notre côté. Mais il y a aussi un exemple de l'évêque de Yola, qui est au nord-est du Nigeria. Voyons ces victimes de Boko Haram qui ont fui, qui étaient réfugiés à la cathédrale. Il avait demandé des terrains à l'État d'Adamawa, qui lui avait accordé 10 hectares, où il avait construit des appartements pour héberger tout le monde. Et les chrétiens et les musulmans ont construit en même temps, sur ce terrain, une mosquée et une église pour que tout le monde puisse avoir l'accès à son lieu de culte. Donc, on voit toujours des situations où on pouvait aider les gens. On ne veut pas savoir si c'est des chrétiens ou des musulmans. Voilà.
Et on a compris aussi qu'il y avait ces tentations de vengeance. Hein, le père Diwan en parlait, de ces chrétiens blessés. Voilà, aujourd'hui, l'Église, elle est sur le pont, elle est sur le front pour mener ses actions auprès des communautés qui souffrent. Voilà. Elle est en première ligne, l'Église.
Oui, l'Église est en première ligne. Oui. Avoir au moins 5000 églises brûlées, 2200 écoles incendiés et plus de 5 millions de déplacés au sein du pays, c'est parce que l'Église veut pour ses enfants. On a eu dans le passé le feu archevêque de Kaduna, Jato. Quand il y avait trop de violence à Kaduna, il avait dit, bon, il n'y a plus de jours à attendre. Et c'était la fin des violences. Donc il y a toujours cette tentation de dire, bon, comme l'État ne peut pas, parce que depuis que les violences ont commencé, on n'a jamais dit que ce sont les financiers ou ceux qui attaquent que l'État a pris pour mettre à la justice. Donc il y a cette tendance de dire, bon, on doit se défendre, sachant que nous avons aussi nos frères avec nous qui ne sont pas coupables. Donc il ne faut pas prendre l'aiguille et le poisson avec.
Il ne faut pas faire d'amalgame.
L'amalgame, voilà.
Alors, il y a un acteur de paix aussi, on peut signaler sa mission, c'est le cardinal John Onayekan, hein, archevêque d'Abuja, qui vient de fêter archevêque émérite, ses 80 ans.
80 ans, oui.
Qui a eu un rôle important aussi. Hein.
Oui, oui, oui. Il travaille avec les chefs des musulmans au pays. Mais il n'est pas le seul. Il y a aussi l'évêque Mathias Nkuka, des diocèses de Sokoto, qui est très vif dans ces dialogues interreligieux. Voilà. Donc au niveau national de l'Église, nous avons ces deux figures qui sont très vives dans le dialogue interreligieux.
Ouais. Merci beaucoup, Père John Swakor, pour votre éclairage. On va continuer à suivre, bien sûr, la situation au Nigeria. Et on poursuit tout de suite avec un bref tour d'horizon sur d'autres informations. En RDC, plusieurs villages dans la région de Beni, dans l'est du pays, ont été attaqués le 30 janvier par des rebelles ADF affiliés au groupe État islamique, rapporte Vatican News. Au moins 8 personnes ont été tuées, dont 5 en prière dans une église pentecôtiste. Une trentaine d'autres personnes ont été prises en otage par les assaillants. L'instabilité dans la région dure depuis 30 ans. Soulignons que les évêques congolais, rwandais et burundais qui étaient réunis fin janvier à Goma, capitale du Nord Kivu, ont appelé d'une seule voix à la fin de la guerre dans l'est du pays. Et puis toujours en RDC, un prêtre qui s'était présenté aux élections législatives et a été élu député dans la circonscription de Lomela dans la province de Sankuru, s'est vu rappeler par l'évêque du diocèse de Kolé l'interdiction, selon le code de droit canonique, faite aux clercs d'exercer des charges publiques de l'État. L'Église protestante en Allemagne, le cas des secoués par des abus sexuels. Une étude rendue publique le 25 janvier à Hanovre recense plusieurs milliers de victimes. La présidente de l'EKD, l'évêque Kirsten Fers, s'est dite choquée par ce rapport de près de 800 pages qui fait état d'au moins 1259 auteurs présumés et de 2225 victimes au sein des 20 églises que forme l'EKD. Mais ce nombre pourrait être beaucoup plus élevé. Tout de suite, c'est la chronique du monde. Et on retrouve Sœur Juliette Mgueta, religieuse du Sacré-Cœur de Jésus à N'Djamena au Tchad.
Bienvenue au Tchad, bienvenue au pays de Toumaï. Toumaï qui veut dire espoir de vie en langage chrétien, nous parlerons de l'espérance chrétienne. Cette fois-ci, nous allons parler de la journée mondiale de la vie consacrée telle qu'elle est vécue au Tchad en lien avec les religieux et les religieuses, bref, les personnes consacrées. Les personnes consacrées au Tchad font un travail formidable de formation, d'éducation, dans le domaine de la santé, bref, dans tous les domaines où le besoin se fait sentir avec urgence. Ces personnes consacrées œuvrent avec leur identité qui est l'accent mis sur la vie religieuse, l'accent mis sur la vie communautaire, les vœux, pour faire grandir la personne humaine dans la formation intégrale, en assumant toutes les parties de la dimension humaine. La vie consacrée, le thème est vécu en lien avec le groupe de jeunes de vocation de différentes paroisses, à savoir la synodalité, en lien avec l'église locale, l'église internationale et toutes les personnes avec qui ces religieuses et ces personnes consacrées travaillent. Ce qui est ressenti, c'est œuvrer en parole, en acte, par un témoignage de vie religieuse qui va faire susciter d'autres vocations pour l'amour de Dieu.
Merci Sœur Juliette. Voilà, c'est la fin de cette édition. Vous pouvez la retrouver sur notre site ktotv.com, mais aussi sur nos réseaux sociaux. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous retrouve jeudi prochain avec plaisir. Au revoir.
Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Mon seul abri, c'est toi, yeah. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi.
Je m'appuie sur toi.
Dans mes moments difficiles,
je m'appuie sur toi.
Quand tout va mal dans ma vie,
je m'appuie sur toi. Oh. Je m'appuie sur toi.
Car peu importe mes problèmes, je sais que tu seras toujours là.
Je m'appuie sur toi.
Dans mes moments difficiles,
je m'appuie sur toi.
Quand tout va mal dans ma vie,
je m'appuie sur toi.
Oh, yeah.
Je m'appuie sur toi.
Car peu importe les problèmes, je sais que tu seras toujours. Seul abri, c'est toi,
c'est toi.
Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi.
Je m'appuie sur toi
dans mes moments difficiles.
Je m'appuie sur toi
quand tout va mal dans ma vie.
Je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi.
Car peu importe mes problèmes, je sais que tu seras toujours là.
Je m'appuie sur toi
dans mes moments difficiles.
Je m'appuie sur toi
quand tout va mal dans ma vie.
Je m'appuie sur toi.
Oh yeah.
Je m'appuie sur toi.
Car peu importe les problèmes, je sais que tu seras toujours là. Huh. Oh, chaque jour suffit sa peine parce que tu es là. C'est un jour nouveau qui se lève. Ma confiance est certaine, tu es avec moi. Oh, 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 tu sais bien où je vais, tu conduis mes pas. Ton soleil brillera sur moi, c'est l'espoir qui renaît. Je suis avec toi.
Je m'appuie sur toi
dans mes moments difficiles.
Je m'appuie sur toi
quand tout va mal dans ma vie.
Je m'appuie sur toi. Oh. Je m'appuie.
dans mes problèmes. Je sais que tu seras toujours là.
Je m'appuie sur toi
dans mes moments difficiles.
Je m'appuie sur toi
quand tout va mal dans ma vie.
Je m'appuie sur toi.
Oh yeah.
Je m'appuie
oh yeah.
sur toi.
Car peu importe les problèmes, je sais que tu seras toujours là.
Présenté par Maxence Éloi, KTO Radio.
Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous accompagner en ce vendredi 2 février 2024, une journée spéciale puisque c'est la journée mondiale de la vie consacrée. Il en sera d'ailleurs question dans l'invité de la matinale, une rencontre rassemblant les principaux responsables des instituts de vie consacrés de 60 pays se déroule actuellement à Rome jusqu'à dimanche. Dans quelques minutes, nous serons d'ailleurs en direct depuis le Saint-Siège avec Sœur Anne Chapelle qui coordonne cette rencontre pour parler des enjeux autour de la vie consacrée. À 7h25, nous pourrons prier tous ensemble lors de la messe diffusée en direct de la basilique Notre-Dame de la Garde. Il y aura aussi le journal de Radio Vatican et le journaliste Cyprien Viette nous partagera son regard sur la vie du Vatican dans sa chronique Vue de Rome. Demandez le programme, on est ensemble jusqu'à 9h. Avant ça et pour bien débuter la journée, découvrons le Saint du jour présenté par Magnificat.
Soyons saints, en partenariat avec Magnificat.
En cette fête de la présentation de Jésus au Temple, nous souhaitons une belle fête au Théophane. Nous découvrons ce matin Saint Théophane Vénard, né en France en 1829, dans une famille aimante et chrétienne qu'il chérira toute sa vie. Il vit une enfance paisible, entre l'école, la vie paroissiale et les promenades pour aller faire paître la chèvre familiale en lisant des lectures spirituelles. À 9 ans, après avoir lu une brochure sur la vie d'un martyr du Tonkin, Théophane s'écrie « Et moi aussi, je veux aller au Tonkin. Et moi aussi, je veux mourir martyr. » Une fois prêtre, il y est en effet envoyé par les missions étrangères et y parvient en 1854. Le père Vénard assimile très rapidement le vietnamien et s'active auprès des chrétiens. Malheureusement, il tombe malade, souffrant de la tuberculose. Il reçoit plusieurs fois les derniers sacrements, puis demande à subir une opération délicate et surtout hasardeuse, relevant d'une forme d'acupuncture. D'aucuns se diraient qu'il porte décidément bien son nom de famille. Nous y voyons l'œuvre de la grâce. Après quelque temps, les persécutions prennent une ampleur effroyable. Théophane vit alors une vie de traque, se cachant entre deux cloisons ou sous les toits, côtoyant étroitement rats et araignées. Il est finalement découvert et amené devant le vice-roi, auprès duquel il fait une forte impression. Il paye notamment ses gardiens pour qu'ils soient mieux traités. Le 2 février 1861, un imposant cortège se met en route derrière ceux qui emmènent Théophane vers la mort. Le jeune trentenaire marche les mains jointes, les yeux levés vers le ciel, chantant le Magnificat. Ses écrits édifiants toucheront Sainte Thérèse de Lisieux, pour qui ce martyr devient un saint de prédilection. Mettons-nous à l'écoute de Saint Théophane Vénard. Nous sommes tous des fleurs plantées sur cette terre et que Dieu cueille en son temps, un peu plus tôt, un peu plus tard. Seigneur, ouvre nos cœurs à ta grâce. Donne-nous d'accepter avec confiance de nous laisser cueillir. Nous te confions aussi, en cette journée mondiale de la vie consacrée, tous les consacrés que nous connaissons.
L'agenda.
La pastorale des familles de la santé du diocèse de Nantes propose une journée de ressourcement à destination de toutes les personnes aidant une personne dépendante ou en situation de handicap. L'événement aura lieu mardi 6 février de 9h à 16h30 à Saint-Nazaire. Une halte spirituelle, des temps d'écoute et de partage sont au programme. Le repas du midi est par ailleurs offert. Inscription et renseignements par téléphone au 06 63 48 49 24 ou par mail à pastoralsante44@catholique-nantes.cef.fr. Un rendez-vous pour les jeunes maintenant, des collégiens en 3e aux jeunes en études supérieures pour être plus précis. Le diocèse de Chartres propose de vivre un week-end comme à Thésée du samedi 10 au dimanche 11 février. Tout un tas d'activités spirituelles et collectives sont au programme, chant, danse, enseignement, mais aussi confection de crêpes ou encore nettoyage de la cathédrale. Un beau moment de rassemblement en somme. Inscription avant le 3 février à jeunes.vocation au pluriel @diocèse-de-chartres.fr ou au téléphone au 07 63 47 22 68. Et enfin, pour finir, nouons des liens, c'est l'objectif des après-midi convivialité mis en place par l'ensemble paroissial du Puy-en-Velay. Le premier rendez-vous est fixé dimanche 11 février entre 14h30 et 17h et se déroulera ensuite les deuxième dimanche de chaque mois. Autour d'une boisson chaude, vous pourrez passer un bon temps, papoter, pousser la chansonnette ou encore jouer aux cartes. Si vous êtes intéressé, contactez le relais des clochers au 06 74 64 40 10. Je répète, 06 74 64 40 10. Un service de covoiturage est mis en place. Et je vous rappelle l'adresse agenda@catheotv.com pour nous partager des événements.
Merci.
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 Écoutez, vos oreilles vous parlent. Elles sont prêtes pour une petite révolution radiophonique, le DAB+. Le DAB+, est la nouvelle technologie de diffusion de la radio en qualité numérique sans abonnement. Avec un poste de radio équipé DAB+, où que vous soyez, chez vous, en voiture, profitez d'une expérience radio unique et d'une qualité d'écoute optimale. Découvrez le calendrier de déploiement sur ensemble-pour-le-dab+.fr.
On retrouve maintenant la chronique Vue de Rome. Aujourd'hui, le journaliste d'Immédia, Cyprien Viette, nous décrypte la gestion des ressources humaines des employés du Saint-Siège entre processus de recrutement renouvelé pour les laïcs et emploi du temps bien chargé pour certains.
Vous écoutez KTO Radio.
Travaillez avec nous, la rubrique ouverte sur le site internet du Secrétariat pour l'économie du Saint-Siège en octobre dernier a ouvert une nouvelle ère dans le mode de recrutement des employés du Vatican. D'une logique discrétionnaire liée à des appuis et à des réseaux, les embauches sont désormais menées dans une volonté de transparence et d'efficacité. Depuis le début de son pontificat, le pape François a manifesté sa volonté de laïciser, rajeunir et féminiser les effectifs du Vatican. Sauf dérogation, les embauches laïques sont dirigées vers des jeunes de moins de 35 ans, baptisés et confirmés dans l'Église catholique et disposant des compétences requises, notamment au niveau linguistique. Chaque candidature est passée au crible par la nouvelle direction des ressources humaines du secrétariat pour l'économie et les candidats doivent prouver leur motivation au cours de plusieurs entretiens, au fil d'un processus pouvant s'étaler sur plusieurs mois, ce qui en décourage certains. Les prêtres et consacrés, pour leur part, ne peuvent désormais venir que sur des mandats limités à 5 ans renouvelables une fois, en y étant envoyés par leur évêque ou leur supérieur. Il n'est plus possible pour eux de faire carrière au Vatican, sauf pour certains domaines nécessitant une expertise particulière, notamment la diplomatie. Le Vatican compte au total environ 4500 employés, tous services confondus, avec des profils très variables. Les ouvriers de la fabrique de Saint-Pierre n'ont pas le même cursus que les experts du secrétariat pour l'économie ou les employés de la section latine de la secrétaire d'État qui sont encore généralement des prélats. La durée légale de 36 heures hebdomadaires répartie en 6 fois 6 heures ou plus rarement en 5 fois 7 heures 12 est souvent dépassée, notamment avec le travail du dimanche. La pandémie a aussi bouleversé le mode de travail au Vatican, comme partout dans le monde, avec une explosion du nombre d'heures travaillées à la maison. Les groupes WhatsApp, dont les Italiens sont particulièrement friands, se sont mis à crépiter à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, certains responsables lançant des discussions à 23 heures. Le Vatican cherche donc à se professionnaliser, mais il n'échappe pas à la frénésie du monde et au débat sur le caractère parfois intrusif d'un management qui oublie parfois la séparation entre vie privée, fort interne et compétences professionnelles. Depuis Rome, Cyprien Viette de l'agence Immedia pour KTO.
Vous écoutez KTO Radio partout en France sur le DAB+ et dans le monde entier sur Internet.
La chronique Vue de Rome, toujours aussi intéressante, est bientôt disponible en podcast sur le site kteoradio.com, sur l'application KTO Radio et sur YouTube. D'ici quelques minutes, on retrouvera Sœur Anne Chapelle depuis Rome pour parler de la vie consacrée au cœur des rencontres qui ont lieu actuellement. Mais avant ça, un peu de musique avec Sœur Agathe.
Viennent bientôt t'attendre.